Où en sommes-nous dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran? Pouvons-nous trouver un deal? On va essayer d'y répondre avec Daniel Habert dans les conversations qu'il a chaque semaine avec Blaise van der Linden. À noter quand même que cet entretien a été enregistré hier, donc c'était avant les événements de la nuit qui ont vu donc l'Iran et Israël se rendre coup pour coup à coups de missiles balistiques.
Daniel Habert, bonjour.
Oui, bonjour à tous et bonjour Blaise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Daniel, chaque lundi dans nos conversations depuis plusieurs mois maintenant, on se pose la même question, c'est de savoir où on en est dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran et puis évidemment avec Israël. Comment est-ce qu'on compte s'en sortir?
Alors c'est vrai que chaque semaine on se pose la même question. Je dirais que chaque semaine on y voit un tout petit peu plus clair. Les choses qu'on peut dire et qui sont certaines, c'est premièrement que l'option militaire est de moins en moins probable. Tout le monde voit bien qu'elle n'aurait pas de sens, elle n'aurait pas d'efficacité, et donc la trêve, enfin le cessez-le-feu dans lequel on est depuis plusieurs semaines maintenant, presque 2 mois, on est beaucoup plus dans une période de trêve que dans une période de conflit. Donc on reste dans cette période de ni guerre ni paix. On voit bien que le cessez-le-feu est fragile, qu'il est souvent interrompu par des actions militaires souvent lourdes, la destruction. Par exemple, d'une partie de l'aéroport du Koweït, c'est pas rien du tout. Il n'y a pas eu d'escalade, donc on voit bien que l'option militaire n'est mise de côté. Et donc, pour sortir de la situation aujourd'hui, il faut trouver une sortie de négociation. Et il faut d'abord regarder de près les pressions qui pèsent sur chacune des parties pour comprendre ce qui peut sortir. Sur l'Iran, la pression que les Américains ont mis en fermant complètement le détroit d'Ormuz, c'est l'asphyxie lente de l'économie. Mais enfin, cette économie iranienne est asphyxiée depuis très longtemps, depuis la mise en place des sanctions, et surtout remise depuis 2018. Donc, je crois que les gardiens de la révolution sont prêts à faire payer au peuple iranien toutes les privations nécessaires pour résister. Donc, cette pression économique, je crois que ils la subissent sans trop de problèmes. La gouvernance, on voit bien aujourd'hui que le pays est en fait dirigé par 3 ou 4 anciens gardiens de la révolution. C'est des vieux de la vieille qui sont au pouvoir. Maintenant, on y voit plus clair. Ils ont pris les rênes et ils sont dans une situation où ils ont les choses bien en main. D'abord parce qu'ils sèment la terreur dans la population. Celle-ci, elle ne bouge pas. Il y a des pendaisons, il y a des arrestations. Donc là, ils sont tranquilles. Et sur l'organisation militaire, ils ont 2 points forts. D'abord, cette décentralisation qui fait que les ripostes iraniennes, à la moindre attaque américaine, elle est terrible. Cette décentralisation sur 31 commandements dispersés est très difficile à vaincre. Et puis surtout, finalement, tout ça a imposé l'idée que l'Iran dispose d'une capacité de dissuasion suffisante et crédible, en tout cas, avec ses missiles, avec ses drones Shahed, et avec la possibilité de toujours bloquer le détroit d'Hormuz très facilement à tout moment. Donc pour l'Iran, la situation est sous contrôle, et donc il a l'impression qu'il a les bonnes cartes en main. Et donc sa position de négociation, elle est très dure. Elle est très dure. Ça c'est pour l'Iran. Pour les Américains, Trump essaie de dire qu'il a du temps, qu'il n'est pas inquiet pour les élections de mi-mandat, etc. Mais en fait, il subit et en permanence beaucoup de pression. D'abord, il y a bientôt le 4 juillet, qui doit être une très grande célébration. Plus on se rapproche, on va constater que toute l'Amérique va se mobiliser pour ces 250 ans de célébration de l'indépendance américaine. C'est un moment important de la présidence de Trump, sa dernière. Et puis, donc, il va beaucoup s'y consacrer et il faut qu'il arrive quand même pas trop pénalisé. Les élections, elles vont comme sont en novembre, mais la campagne va commencer dès septembre. Et puis, il a une pression constante de l'opinion publique via les médias américains qui l'adjurent d'arrêter tout le plus vite possible. Et à l'intérieur du Parti républicain, il il a des pressions contradictoires entre des sénateurs qui le poussent à reprendre les opérations militaires et les autres qui lui disent d'arrêter. Et dans tout ça, on voit que le vice-président Vance se prépare déjà à prendre la relève et donc est un adversaire qui n'en a qui se tient tout prêt. Au total, donc Trump, il doit être pressé de conclure. La seule chose qu'il cherche, c'est pouvoir vendre ce qu'il va conclure comme une victoire. Bon, il sait le faire. Et voilà. Pour Israël, c'est la dernière partie en cause, il a besoin de temps pour continuer à gérer l'affaiblissement du Hezbollah. Et il fait des opérations de plus en plus fréquentes, de plus en plus profondes, ce qui montre qu'il sait que le temps lui est compté. Mais en même temps, vous avez remarqué qu'il y a une négociation avec les autorités libanaises, donc il y a une percée diplomatique qui incite Israël peut-être à accepter de ralentir son action contre l'Hezbollah si du côté libanais on peut lui apporter un certain nombre de réconfort. Donc voilà, de toute façon Israël n'a pas la main dans la négociation et il se prépare à toutes les circonstances.
Alors, on catégorise souvent le président américain de dealmaker, Daniel Abert. Vers quel deal va-t-on justement?
Alors pour l'instant, il faut être clair, hein, on ne négocie que sur la libération du détroit d'Ormuz. Toutes les négociations sur la dangerosité de l'Iran, le programme nucléaire, est repoussée à aucune date. Elles n'auront peut-être jamais lieu. Ce qui, en contrepartie, il y aura toujours pas de levée de sanctions. Donc, on se retrouvera dans la situation où on était à la veille de l'attaque du 28 février. Donc, sur le détroit d'Ormuz, cette ouverture est nécessaire parce qu'elle met en péril l'économie mondiale. Donc, il y a beaucoup de pression. Et au fond, elle est simple à réaliser, l'ouverture. Chacun devrait se retirer. Les bateaux américains se retirent, les Iraniens se retirent et on laisse passer. Sauf que les Iraniens, comme je le disais tout à l'heure, se sentent très fort, réclament deux choses en plus. Ils veulent de l'argent. Cet argent, ça, alors soit un péage, soit le déblocage de toute une partie de l'argent qui appartient à l'Iran, mais qui est bloqué dans des comptes au Qatar. Ils sont bloqués par les Américains. On parle de 24 milliards, donc ils pourraient obtenir 12. Enfin, c'est une rançon pour libérer le détroit d'Ormuz. Ils demandent des sous. Ils demandent des sous qui est bien bien typique de l'Iran. Et puis, ils veulent sauver le Hezbollah. Et donc, ils mettent comme condition d'arrêter les actions israéliennes sur le Hezbollah. Donc, seuls les Américains sont face à l'Iran pour cette négociation. Israël est obligé d'attendre, je le disais aussi. Et la seule chose qui est bonne pour Israël, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est que le gouvernement libanais lui-même comprend combien le Hezbollah est un danger. Et donc, il peut essayer de trouver des solutions politiques au Liban qui pourraient faire pression sur le Hezbollah. Si on a un peu de temps, j'en parlerai. Donc Trump se trouve devant c'est lui qui a la main, la décision. Est-ce qu'il accepte ces deux demandes de l'argent et la fin des opérations contre Hezbollah, qui sont des demandes au fond inadmissibles, injustifiées, et voilà, il hésite.
Ouais, justement, hein, le président américain, Donald Trump, selon vous, est-ce qu'il va céder?
Écoutez, le risque est grand qu'il cède, parce qu'il pense pouvoir d'abord ne pas céder 100% aux demandes iraniennes, et il pense qu'il va pouvoir vendre la libération du détroit d'Ormuz avec l'idée, et c'est pas faux, que tout le monde sera tellement content que le détroit soit libéré, il y aura une espèce d'immense soulagement mondial. Je appellerais ça un lâche soulagement, un peu comme en 38 après Munich. On a cédé, mais au fond, on est libre. Et tout d'un coup, l'idée d'une crise mondiale va s'éloigner. La baisse du prix de l'essence à la pompe, on peut espérer qu'elle va s'accélérer. Tous les gens qui ont prévu des vacances à l'étranger en avion et qui ont des doutes vont pouvoir conforter leur prêt. Donc tout le monde sera content. Et donc il est capable de vendre une partie de ce qu'il va céder. Il va essayer de réduire la rançon. hein, au lieu d'essayer de remplacer le péage par une libération des fonds bloqués. Alors il y a 24 milliards, il peut en proposer 12. Ce sera une négociation de marchand de tapis. Sur les Hezbollah, je le disais tout à l'heure, on peut espérer quelque chose de très intéressant. C'est que même le Hezbollah, il est chiite, et il y a d'autres partis politiques chiites au Liban, en particulier le parti Amal, Nabal Berri, qui est le président du Parlement. Je crois que tous les Libanais prennent conscience que le Hezbollah est devenu un corps étranger au Liban, complètement manipulé par l'Iran, qui est un autre pays. Et donc, on peut espérer une coalition politique qui comprendrait les chiites pour dire au Hezbollah, non, vous ne travaillez pas dans l'intérêt du Liban. Et donc, faire pression pour le Hezbollah pour trouver quelque chose qui a déjà été engagé ces derniers jours, qui est, bon, le Hezbollah promet de ne plus bombarder Israël au nord, et Israël arrêterait ses opérations. On pourra trouver une sorte de solution bancale, peut-être, et qui peut suffire pour quelques mois, voire quelques années.
Et évidemment, on en parlera dans nos prochaines conversations. Merci beaucoup, Daniel Habert, d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. On se retrouve lundi prochain.
La semaine prochaine, au revoir.